La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
Vous le savez, j'aime raconter un peu mon quotidien, ma vie à ce micro. Alors le jeudi 29 avril est une date qui, pour ma part, restera gravée dans ma mémoire, une date qui, lorsque je serai centenaire, je la raconterai non sans radoter. Vous devez vous dire pourquoi. Eh bien, en ce jour, en pleine nuit, alors que je me dirigeais non sans difficulté vers ma salle de bin, ayant passé devant le miroir de mon armoire, qu'ai-je vu ? Des cheveux blancs, pas gris, mais blancs. C'est le genre d'image qui, après un sommeil profond, vous ramène à la réalité. Si jeune, des cheveux blancs, je dois avoir une mauvaise vue. Et là, stupeur, je vois dans mon miroir de salle de bain 4 cheveux blancs, selon un comptage de la CGT, 2 authentifiés de façon quasi certaine selon la police. Alors que faire ? J'étais paniqué face à ma potentielle vieillesse, à ma potentielle finitude. Normalement, l'apparition des premiers cheveux blancs, la canicie, comme on dit en termes scientifiques, c'est vers 40 ans. Tard dans la nuit, c'est le genre de choses, de réflexion qui vous angoisse. Alors je téléphonais à la première interlocutrice, ma première confidente, ma mère, qui a beaucoup apprécié cet appel nocturne. Je lui dis « Je ne te réveille pas », comme elle dormait très poliment, elle m'a dit non. Ce à quoi je lui explique ma vision d'horreur et ce à quoi elle me répond « Le jour où tu auras autant de cheveux blancs que moi, on en reparlera et tu pourras m'emmerder en pleine nuit. » Fin de la conversation, le lendemain, rendez-vous mensuel chez Franck Provost, rue de Rennes. Je n'ai pas parlé de ma vision cauchemardesque à ma si ravissante coiffeuse, la nuit était courte. C'est elle, en fait, qui me l'a rappelé. « Vous avez des cheveux blancs, Adrien ? Ah, bon. » Bon, bref, c'est le genre de diagnostic qui rassure autant que la consultation d'un site Doctissimo, surtout qu'elle m'a dit que cela pouvait se multiplier d'ici 10 ans ou plus. Enfin bref, le tout est que cette démultiplication... Ça m'a rappelé Édouard Philippe pour faire un peu de politique, d'où le début de mon édito. Cet homme qui a commencé il y a quelques années comme Premier ministre avec énormément de cheveux noirs et qui désormais est blanc, blanc, blanc. Alors évidemment, ces négociations, les législatives, etc., on en discute beaucoup et peut-être qu'elles vont lui construire une future assise de 2027 et peut-être que d'ici là, j'aurai autant de cheveux blancs que lui. Mais pour l'heure, on va partir sur, après cette réflexion décousue sur cette vision de la tambouille politique que m'a permis un cheveu blanc, on va partir sur la matinale tout de suite. Sommaire de cette émission, un programme lié au droit. Nous aurons donc le plaisir pour notre grand dossier du jour de recevoir Élise Massé et Lola Ballarini, deux juristes de l'association qui accompagnent les lanceurs d'alerte au sein de la maison des lanceurs d'alerte. Nous nous intéresserons à cette question primordiale de notre société et dans le débat public. Nous recevrons ensuite pour notre partie culturelle, pour notre Zoom, Yanis Odua qui sort son nouvel album et qui sera en concert le 9 juin. Soyez attentifs et à l'écoute car à la matinale de 19h, cette fois c'est parti.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Bonjour Élise Massé et Lola Ballarini, pardonnez-moi, c'est bien Ballarini ?
Oui, Ballarini, c'est ça.
Ballarini. Je rappelle que vous représentez l'association La Maison des Lanceurs d'Alerte et qu'actuellement votre association, nous reviendrons dessus, assiste Pierre Inard au tribunal de Nantes dans le procès Castelviande. Un scandale alimentaire qui n'est pas sans rappeler à la lueur de l'actualité les dernières affaires concernant le groupe Nestlé et sa filiale Buitoni ou encore le groupe Kinder. On va essayer de comprendre et de démêler toute cette problématique. Mais d'abord, j'ai envie de vous demander très prosaïquement ma première question. Je pense qu'elle va être en fait la plus difficile pour vous car entre le droit latin et le droit anglo-saxon, cela doit varier. Qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte et comment le définissent nos codes de loi ?
Alors, un lanceur d'alerte, juridiquement, c'est une personne physique qui va venir dénoncer ou signaler des faits dont il a eu personnellement connaissance. Et ces faits, ça va être des crimes ou des délits ou bien des menaces à l'intérêt général. Donc c'est une définition qui est... Celle-ci est juridique et elle a beaucoup finalement de critères, mais dans un sens plus large, un peu plus social, c'est vraiment voilà, une personne qui va signaler des faits qu'il estime contraires à l'éthique, contraires à la politique de santé publique. Voilà. Donc d'un point de vue large, c'est ça un lanceur d'alerte. Mmh. Quelqu'un qui va dénoncer quelque chose qui est injuste, qui n'est pas possible selon lui d'être dans la société finalement.
Et cette vision, j'imagine qu'au cours des dernières années, elle a beaucoup évolué. Qu'en est-il ?
Eh bien, maintenant, il y a une loi qui vient encadrer en fait, le statut de lanceur d'alerte. Cette loi, c'est la loi Sapin 2. C'est une loi qui a amené en fait, un statut protecteur pour le lanceur d'alerte qui va lui permettre d'être protégé. Donc d'être protégé parce que souvent, les lanceurs d'alerte dans les entreprises, par exemple, ils vont subir des représailles du fait de l'alerte qu'ils ont lancée. Mmh. Parce qu'ils vont mettre à mal en fait, leur entreprise. Et donc, il leur fallait un statut pour les protéger face à ces entreprises qui sont parfois assez dur avec eux. Et donc cette loi Sapin 2 est venue de 2016, hein, celle-ci, est venue apporter ce statut protecteur aux lanceurs d'alerte.
Et donc j'imagine, parce que je sais que l'une d'entre vous a une spécialisation en droit international, il me semble.
En fait, on est toutes les deux un petit peu spécialisées.
Spécialistes. J'imagine que cette définition, oui, sinon vous ne seriez pas là, mais j'imagine que cette définition n'est pas du tout la même selon qu'on se trouve donc aux États-Unis ou en France sur la notion de lanceur d'alerte. Il n'y a peut-être même pas la même vision en termes de droit et même d'opinion publique.
En réalité, aux États, enfin après, on n'est pas du tout spécialiste sur.
Bien sûr,
sur le
mais
droit,
on essaie de comprendre.
aux États-Unis, mais il y a des lois effectivement qui doivent encadrer le statut aux États-Unis. Maintenant, c'est vrai que nous, notre la permanence juridique dans laquelle on travaille à la maison des lanceurs d'alerte, elle est vraiment focus sur le droit français
et sur le droit de l'Union européenne, parce que il y a eu aussi cette directive de l'Union européenne qui a fait qu'une nouvelle loi en France va bientôt être entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Et l'Union européenne donc souhaite conférer vraiment un statut protecteur du lanceur d'alerte dans tous les États membres de l'Union européenne.
Et cette loi, pour vous, elle répond à des attentes, à des revendications que votre association a pu faire, par exemple?
Ah oui, clairement.
Ou elle est en deçà des attentes?
Clairement, il y a des avancées, donc tout n'est pas parfait, mais il y a des avancées, notamment, par exemple, dans l'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte. Qui jusqu'ici n'était pas pénalement responsable pour la divulgation de l'information, puisque c'est le principe du lanceur d'alerte. Mais paradoxalement, il pouvait être attaqué pour la manière dont il s'était procuré les preuves. Pour vous donner un exemple très concret, dans l'affaire LuxLeaks, je ne sais pas si vous en avez sans doute entendu parler avec Antoine
Sur, Dutour. Oui, les scandales de blanchiment d'argent et de fraude au Luxembourg.
Voilà,
oui.
C'est ça. Et donc il n'a pas été attaqué pour avoir divulgué l'information, mais de la manière dont il s'était procuré les documents. Il avait été accusé de vol de documents. Maintenant, cela ne sera plus possible.
Ce ne sera plus possible.
Voilà, il sera également protégé à ce niveau-là.
Et ce, en France ou
en
dans
France.
Le droit
en
européen
France. Là,
en
c'est France. La France qui a donc transposé la directive. Et également pour la protection un petit peu plus aboutie. Jusqu'ici, comme Lola l'a dit, c'était une personne physique comme vous et moi qui pouvait lancer l'alerte et bénéficier de la protection du lanceur d'alerte. Maintenant, on a ce facilitateur qui permet à une personne qui n'a pas personnellement eu connaissance de l'information de pouvoir relayer cette information et de bénéficier du statut protecteur. Et ce facilitateur peut également être une personne morale. Donc ça permet aux lanceurs d'alerte d'être beaucoup moins isolés et de pouvoir être accompagnés par une association qui sera également protégée.
Et on a bien vu, vous défendez ces personnes. Et comment vous expliquez qu'au sein de l'opinion publique, il y ait autant de crispation en tant que telle sur le cas des lanceurs d'alerte? Je prends le plus connu d'entre eux, qui est par exemple Julian Assange. Et même, j'ai envie de vous demander... selon le prisme sur lequel vous portez, est-ce que dans le fond, cette vision des lanceurs d'alerte, c'est pas plus avant tout une question morale qu'une question juridique? Deux grandes questions.
Sur Julian Assange, c'est assez délicat parce qu'en fait, c'est très politique sur son statut. Est-ce qu'il est vraiment lanceur d'alerte au sens de la loi? Ça, c'est des débats qui sont encore en cours, en fait. Donc, pour le coup, nous, vraiment, enfin, on va parler de ce qu'on connaît. C'est vraiment pas forcément des grands lanceurs d'alerte qu'on connaît dans le sens où, je veux dire, des ultra médiatisés, etc. Mais pour autant, ils ont la même hargne, on va dire, de vouloir absolument rétablir une justice, en fait. Après, la deuxième question, j'ai déjà oublié.
En fait, oui, ça dépend des valeurs de chacun. Et en général, un lanceur d'alerte, c'est juste une personne qui a des valeurs profondes et qui tient à son travail, qui a envie de faire son taf comme il faut. Et quand qu'il assiste à des comportements qui sont pour lui complètement immoraux, et là, je vous rejoins, c'est vraiment, évidemment, une question morale et d'éthique. Et c'est ça qui est compliqué aussi, jusqu'où s'arrête la morale, jusqu'où définir le curseur pour savoir est-ce que là c'est véritablement une alerte ou pas. Mais en attendant, il y a cette crispation qui a été décrite précédemment, parce qu'on s'imagine qu'en octroyant une protection aux lanceurs d'alerte et en renforçant cette protection, ça va donner droit à tous les citoyens de pouvoir dénoncer tous les secrets d'entreprise, de pouvoir juste faire de la délation et de créer un système de justice privée. Mais en fait, on s'aperçoit, et Lola et moi, on le voit tous les jours à la permanence, que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un lanceur d'alerte qui va, avant tout, prévenir l'entreprise elle-même. Et l'entreprise, son premier réflexe, c'est pas de rectifier le tir et d'essayer de faire changer les choses. Ouais. C'est de licencier sur le champ le lanceur d'alerte et de ne pas régler le problème.
Et vous avez parlé de votre permanence, vous avez parlé des gens que vous avez au quotidien, mais qui vous défendez concrètement? Que fait votre association pour défendre ces personnes?
Bah, concrètement, on fait un accompagnement juridique. Donc, qu'est-ce que c'est un accompagnement juridique? Eh bien, tout simplement, les personnes viennent nous voir via une plateforme sécurisée qui s'appelle Global Leaks. Ils nous présentent les faits. Ils disent « Moi, j'ai signalé ça à l'entreprise, voilà ce qui s'est passé. » Ils nous donnent aussi, ils nous procurent des documents, des preuves, tout ça. Et nous, ensuite, le gros travail qu'on fait à la permanence, c'est qu'on va instruire le dossier. Ça prend énormément de temps, parfois moins, parfois beaucoup. Et on instruit le dossier et on va regarder, on va fournir ensuite une analyse juridique. Alors parfois, l'analyse juridique, ça va être un conseil juridique qui n'a pas forcément de lien avec lanceurs d'alerte. On va parfois les réorienter vers des avocats, des maisons du droit, parce que leur problématique ne correspond pas aux lanceurs d'alerte. Mais
D'accord, vous les aiguillez.
Oui, c'est ça. En fait, on les aiguille.
Autorités compétentes.
C'est ça, on les aiguille vers d'autres instances. Et sinon, pour ceux où on soupçonne vraiment qu'il y a un statut là il a le statut de lanceur d'alerte, on prend contact avec eux, on les appelle, on commence à discuter, etc. Et ensuite, ce qu'on rédige, le document phare de la permanence et qu'on rédige de temps en temps, c'est les notes de soutien. Et les notes de soutien, c'est un document juridique qui va attester point par point que cette personne est bien une lanceuse d'alerte en vertu de la loi.
Donc vous avez défini dans votre propre association et par rapport à la loi des critères qui permettent de définir ce qu'est un lanceur d'alerte.
Les critères sont les mêmes que ceux énoncés dans
la
loi, en réalité.
D'accord, ouais.
Donc on fait juste certifier parce qu'en démontrant point par point, donc c'est tout un travail des juristes.
Certifié du point de vue, bien sûr, de la maison des lanceurs d'alerte, et ensuite ce sera un document que le lanceur d'alerte pourra montrer devant le juge.
C'est ça.
Et au-delà de l'assistance juridique, vous pouvez apporter une assistance morale, une assistance autre. Qu'est-ce que vous faites au juste?
Morale surtout, parce que c'est souvent des personnes en détresse qui viennent nous voir. Et des fois, c'est pas facile en tant que juriste, parce que nous, on a une formation juridique et des fois, on a des problématiques psychologiques à gérer aussi. Et c'est pour ça qu'on a deux psychologues du travail qui travaillent avec nous à la MLA. Donc on oriente les lanceurs d'alerte vers les psychologues, parce que c'est parfois vraiment souvent vraiment dur pour eux, et il faut des professionnels pour les aider aussi d'un point de vue moral et psychologique.
Et qu'est-ce qui pousse deux jeunes femmes à la sortie de leur étude de se dire on va se lancer en tant que juriste dans la maison des lanceurs d'alerte, alors que peut-être vous auriez pu travailler dans un cabinet privé ou autre? Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? On est loin de la maison des lanceurs d'alerte,
mais c'est intéressant.
Pense que c'est intéressant.
Bah, en vrai, personnellement, du coup, je parle pour moi, mais j'ai eu des expériences dans les cabinets privés, j'ai eu ce genre d'expérience. Et en fait, c'était parfois. Je travaillais, donc je faisais mes trucs, mais je travaillais, j'avais pas de sens. J'avais aucun sens à ce que je faisais. Je faisais des trucs de droit commercial et tout, ça me disait pas, quoi. Ça m'animait pas. Et en fait, je voulais absolument avoir une expérience dans une asso, et l'association des lanceurs d'alerte, j'ai beaucoup aimé, parce que on défend des gens qui ont besoin de nous, quoi. C'est pas ils ont parfois plus grand chose.
Et puis on sent qu'on fait quelque chose de bien et que on n'est pas forcément en train de défendre quelqu'un avec qui on partage pas du tout aucune valeur, et que limite on est contre. Intimement contre cette personne, mais le travail fait qu'on est obligé de défendre, et puis ça, c'est le droit, tout le monde, chacun a droit à une défense, mais c'est vrai que ça fait du bien de se sentir vraiment utile et de voir que derrière, il y a des gens qui nous remercient, qu'on a pu aider, qui étaient au fond du trou et qui en sortent au final, qui peuvent gagner le procès, qui sont médiatisés, qui peuvent tourner la page sur tout ça, et c'est vrai que c'est gratifiant, et puis c'est beaucoup plus intéressant.
Alors, on va faire une courte pause musicale et on va revenir sur l'affaire qui mobilise actuellement votre association notamment. Oh, yeah.
been a week from hell. I lost my job at Five Guys. My girl just kicked me out. She says I'm lame. Maybe she's got a point. Who gets the sack from Five Guys? She thinks I'm so incapable of change. But I can cut down on my speed, give you what you need. Take time to make time, girl. I can stop procrastinating. Be a little more prepared. Show you that I care. I'll love you, I swear, girl. But tell me if I wasn't broke. Out my seventh day of self-assertion, parading in my Calvins with no shame. Good Lord. I sit and think to myself, I've hit the low. But look around and see no one to blame. Maybe I can cut down on my sleep, give you what you need. Take time and make time. I can stop procrastinating. Whoa, 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 whoa. Be a little more prepared, show you that I care. I'll love you, I swear, girl. But tell me if I wasn't broke. Would you spend more time with me like you said you do? Oh yeah, tell me what I'm supposed to do. Cause the only thing I need is to be loved. Like you said you do, yeah. Tell me what I'm supposed to do. Cause the only thing I need is to be loved by you. Oh.
Brock de Sam & Show, la matinale de 19h, c'est tout de suite et c'est reparti.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec Elisa Massé et Lola Ballarini, juriste pour la maison des lanceurs d'alerte. C'est un réel plaisir de vous avoir, notamment au vu de cette période active que connaît votre association avec le procès dit Castelviande. Alors de quoi s'agit-il exactement et pouvez-vous nous rappeler les faits ?
Oui, alors Pierre Inard, c'est un travailleur comme un autre qui était responsable qualité donc, dans cette entreprise Castelviande. Et au fur et à mesure de son travail, il s'est rendu compte de pratiques plus que douteuses, voire dangereuses, à savoir du remballement de viande impropre à la consommation. Donc typiquement des cantines, par exemple, qui renvoyaient la viande de Castelviande parce qu'elles considéraient que la viande était avariée ou ce genre de choses. Et Castelviande réemballait la viande et la remettait dans le commerce. Donc c'était très grave pour la santé, enfin, d'un point de vue sanitaire. Il a donc dénoncé ces pratiques au service vétérinaire, puisqu'évidemment ces pratiques se déroulaient le jour où les services vétérinaires n'étaient pas là. Donc il dénonce auprès des services vétérinaires pour mettre en place un contrôle, une inspection. Les services vétérinaires ont directement prévenu la direction et M. Pierre Inard s'est fait licencier dans la foulée en 2008.
D'accord, parce qu'il a tout d'abord averti les services sanitaires et suite à cet avertissement, il s'est fait licencier. L'entreprise voilà. avait parfaitement le droit de faire ça, il n'y avait pas de questions ou quelque chose.
Bah, c'est tout la question, oui. C'est que l'entreprise va avancer des motifs qu'il considère comme légaux, donc pour motifs personnels, pour tout un tas de raisons, mais en fait, ce qu'on se rend compte, et à chaque fois, c'est le problème, et c'est pour ça que M. Pierre Inard est vraiment représentatif du cas typique du lanceur d'alerte, c'est que c'est une mesure de représailles qui est directement en lien, ce licenciement, avec son alerte. Et ça, c'est tout à fait illégal, et c'est interdit depuis 2016, ces mesures de représailles. mais elles sont tout le temps pratiquées quasiment à chaque fois qu'un lanceur d'alerte essaye de...
Et donc le but de ce procès est-il de prouver le lien ou est-il de démontrer les faits sur la contamination de la viande ?
Et bah, du coup, les faits étaient restés comme tels. Et là, la mise en examen donc, des quatre personnes qui travaillent pour Castelviande et de Castelviande elle-même, c'est pour les faits de tromperie aggravée et préjudice pour la santé du consommateur. Mais donc, ça va permettre à Pierre Rinard, évidemment, de contrer tout ça, de prouver que son licenciement n'était pas du tout légitime, et puis de peut-être mettre un terme finalement à... Puisque depuis 2008, il est...
D'accord, plus de 10 ans que dure ce procès. Voilà. Oui.
Parce qu'il a publié
un livre
entre temps.
Il y a eu des appels, quelque chose ou... non,
bah,
non,
là, c'est l'appel donc, pour son licenciement.
D'accord.
Et sachant qu'entre-temps, il avait publié un livre, Castelviande l'a attaqué en diffamation,
oui.
Et le procès devait avoir lieu, tout ça. Finalement, ils ont retiré leur plainte pour diffamation la veille du procès. Donc ça encore, on voit, c'est...
C'est un marqueur de... Oui, c'est ça. C'est un marqueur de... L'entreprise n'était pas à l'aise avec le fait d'attaquer le lanceur d'alerte pour diffamation et a retiré sa plainte la veille. Donc ça, c'était un autre procès.
C'est une pression, tout à fait.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est les procédures en diffamation, ce qu'on voit aussi, c'est pas un cas isolé. Hein. C'est souvent...
Ça aboutit tout de suite à une mise en examen qui...
En fait, c'est fait pour faire taire le lanceur d'alerte.
Ce qu'on appelle une procédure Bayon, qui est très répandue aussi.
Ouais. Et en fait, c'est fait pour que ce que vous avez dit, c'est faux. Et vous dites n'importe quoi, en gros. Donc, on vous attaque pour ça. Mmh. Et en fait, le lanceur d'alerte, il est là, non, c'est pas vrai. Et enfin, genre, il doit se défendre sur cette procédure. Et donc, il doit engager des frais d'avocat, etc.
Du temps, de
l'énergie. Et ça, c'est des procédures, donc, Bayon, qui sont des manœuvres pour faire taire les lanceurs d'alerte et éviter, c'est ralentir la procédure, etc.
Mmh. Et que risque Pierre Rinard et le groupe en question ?
Alors, le groupe en question, le procureur a émis ses réquisitions.
Oui.
Et donc, il y a la société qui... L'amende requise est de 100 000 euros. Et les dirigeants qui sont mis en examen, ils sont... donc, le procureur, en tout cas, a requis 12 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Donc,
contre le groupe ?
Contre les dirigeants.
Contre les dirigeants du groupe.
Les personnes... les dirigeants et pour la société, 100 000 euros d'amende. Donc on espère que... Ça, c'est les réquisitions du procureur, donc on verra après le délibéré, il a lieu le 8 juillet.
Si les faits sont avérés...
Si les faits sont avérés, on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour nous, c'est bien, disons, les réquisitions, on est en accord avec elles, en tout cas.
Et que fait concrètement votre association pour Pierre Rinard ? Est-ce qu'elle a choisi son avocat ? Par exemple, j'ai vu que son avocat était Eva Joly.
Eva Joly,
oui. Ce qui est quand même une excellente avocate. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis en relation ? Elle l'accompagne plus quotidiennement pour des conseils ?
Oui, voilà.
Vous nous en avez parlé en amont déjà, mais pour Pierre Rinard plus spécialement.
En réalité, c'est la même procédure. Pour Pierre Rinard, c'était un accompagnement juridique. Après, on évite aussi, en réalité, de guider vers des avocats parce que... Voilà, on n'est pas... Enfin, on préfère, fournir notre analyse juridique. Voilà, on a une équipe de juristes, hein. On est plusieurs, il n'y a pas que nous. Hein. Il y a deux autres juristes avec nous, une avocate et une juriste. Mais on évite d'aiguiller vers les avocats parce qu'après, on a peur que...
Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils sont déjà, en fait, accompagnés.
Oui, c'est ça, en fait. Ils sont déjà accompagnés.
Avec un avocat. Les avocats ne connaissent pas forcément très bien le régime. C'est pour ça que la maison des lanceurs d'alerte, on peut par exemple organiser des entretiens avec l'avocat et le lanceur d'alerte. Mais nous, on va juste fournir, une note de soutien.
C'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup d'investissement.
Ouais.
Mais une note de soutien où on va démontrer juridiquement qu'il remplit tous les critères du lanceur d'alerte et qu'à ce titre, le licenciement doit être nul. Et l'avocat, lui, se chargera de rédiger les conclusions. Et voilà, donc on n'intervient pas. La Pierre Rinard est partie civile, donc pour le procès qui a eu lieu le 5 mai. Il est défendu par Eva Joly, mais la maison des lanceurs d'alerte ne fait pas partie là, du procès. C'était juste un accompagnement.
C'est l'accompagnement
pour son licenciement.
C'est ça, qu'on fait à tous nos lanceurs d'alerte, finalement.
Mmh. Et beaucoup plus simplement, est-ce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de scandales alimentaires dernièrement, notamment avec le groupe Nestlé pour Buitoni et le groupe Kinder. Deux questions, en fait. Auriez-vous d'autres sources qui font que vous pouvez nous donner des éléments ce soir sur ce micro sur de futurs scandales sanitaires ? Ou vous, en tant que juriste, et au vu de ce procès, quel regard vous portez là-dessus et comment vous voyez que cela peut se dérouler plus ou moins ?
Bah, le problème avec... enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est que tout ce qui se déroule dans la permanence juridique est strictement confidentiel. Et même parfois, quand nous, on peut avoir un petit peu en avant-première, si je puisse m'exprimer ainsi, mais c'est pas du tout le bon terme. Mais voilà, des fois, on est au courant de fait. Mais c'est sûr que si ça commence à fuiter dans la presse ou auprès de tout le monde,
c'est
déjà, l'entreprise peut se créer une défense préalable, détruire des preuves, tout ça. Et surtout, d'ailleurs, cela fait partie de la loi actuelle. Normalement, l'alerte aux médias, elle est normalement en dernier recours. C'est seulement si l'employeur n'a pas réagi et en deuxième recours, si les autorités judiciaires ou administratives n'ont pas réagi, là, on peut... Donc, non.
Oui, c'est super dangereux pour un lanceur d'alerte. Sinon, on faisait fuiter les trucs, ça serait...
Il pourrait, par exemple, se voir retirer son statut de lanceur d'alerte et ne pas bénéficier de la protection. Donc on évite.
Et comment va Pierre Inard aujourd'hui ? Parce qu'on est à plus de 10 ans de procédure, vous avez peut-être... eu l'occasion de le croiser, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on se sent après 10 ans de procédure comme ça, assez compliquée, contre son propre groupe, etc.
Pierre Hénard, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais les personnes, elles sont... elles sont épuisées, en fait.
On n'a jamais croisé, donc il faudra lui demander pour savoir comment on va.
Mais moi, je pense à une autre lanceuse d'alerte qu'on accompagne, qui s'appelle Marine Martin, qu'elle, on a croisé plusieurs fois. Mais en fait, ils sont à la fois épuisés, et c'est marrant parce que paradoxalement, ils ont envie que la justice soit rendue. Donc, ils ont une force qui est impressionnante, en réalité. Et qui leur permettent justement d'affronter toutes ces procédures et en fait il n'y en a pas tant que ça qui arrivent à supporter tout ça parce que c'est tellement dur psychologiquement, énergiquement, économiquement que voilà. Et c'est vrai que c'est à la fois c'est épuisant et à la fois on se dit mais waouh, c'est impressionnant de force.
Une fois que la procédure a commencé et surtout une fois qu'on les accompagne parce qu'au début un lanceur d'alerte, c'est toujours quelqu'un qui va se retrouver particulièrement isolé. Mmh. Et parfois même, ça aura tellement d'impact qu'on a eu des lanceurs d'alerte qui, toute leur famille a volé en éclats, ils ont subi un divorce, tout ça, vraiment. Ça a des répercussions sur la vie personnelle, autant que sur le travail, sur la vie, vraiment rien qu'intime, énorme. Et une fois que la maison des lanceurs d'alerte ou d'autres acteurs, d'autres associations les accompagnent et que la procédure est en marche, on est derrière eux. Et ils se sentent entourés, ils ont envie d'aller jusqu'au bout, et c'est très éprouvant. Mais voilà, j'imagine que quand, au bout de 10 ans de procédure, tout n'est pas encore fini, on a justement envie encore plus que ça se termine, et on doit être un petit peu fatigué quand même.
C'est clair.
On va arriver non pas en bout de procédure pour Pierre Inard, mais en bout d'interview. Il nous reste grosso modo encore une minute. Mais comment est-ce qu'on peut faire parler de votre association ? Comment nos auditeurs peuvent éventuellement vous soutenir et vous aider ?
Alors, moi, je pensais aux réseaux sociaux, parce qu'on est très actifs sur les réseaux sociaux. On a un pôle communication qui est super bien géré. Il y a plein d'informations, vraiment, c'est fourni, même sur notre site internet. Il y a plein de fiches. Donc, si vous êtes intéressé ou si vous pensez devoir lancer l'alerte, n'hésitez pas sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Sur Instagram, sur Twitter et sur le site internet, vraiment c'est...
Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est aussi une toute petite association, l'équipe est vraiment réduite, mais n'importe qui peut adhérer à la maison des lanceurs d'alerte, donc n'hésitez pas à être adhérent. Et également, on fonctionne par le don de particuliers, vu que évidemment, vu la nature des alertes que l'on défend, tout ça, on n'est pas subventionné, on n'a pas de mécénat d'entreprise et on fait très attention à nos financements. Donc on fonctionne beaucoup avec des dons de particuliers ou d'associations philanthropiques. Donc voilà.
Eh bien, c'était clair.
Un message subliminal.
Oui, un bon message subliminal. On a compris comment vous aider. Merci à vous deux, Élise Massé et Lola Ballarini, d'être venues pour nous parler de votre association.
Beaucoup.
Nous, de notre côté, nous revenons dans quelques minutes. Il est 19h30 sur Radio Campus Paris. Feel it in your chest.
consider all the signs, 'cause life will hold you close and it will help you grow. Oh, life will hold you close. Ooh.
C'était Open Arms de November Ultra. Vous écoutez la matinale de 19h tout de suite.
La matinale de 19h.
Mais à notre chronique. Notre chronique aujourd'hui, c'est Solag qui va nous parler de l'urgence écologique et climatique, de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, ou plutôt de ce qu'on n'en fait pas.
Il y a une urgence vraiment climatique, et si on ne change pas les choses maintenant, c'est pas demain qu'on va les changer, quoi.
On a l'impression que ils affichent comme s'ils avaient conscience de l'urgence du problème.
Sur les lèvres de ces milliers d'adolescents, le même mot d'ordre: dénoncer l'urgence climatique.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud.
Face à l'urgence, nécessité fait loi, dit en substance une partie de la jeunesse. De nécessité, certains font vertu. En 2019, plusieurs députés ont ainsi tenu à inscrire dans la loi l'urgence écologique et climatique.
On se fait quelques amendements juste pour s'échauffer, ça vous va là ? Allez, on se fait la série suivante et après on va dîner. Monsieur Orphelin pour le 118.
Merci monsieur le président. Il s'agit d'inscrire dans la loi l'urgence écologique et l'urgence climatique. Et ce sera tout sauf seulement un symbole.
L'urgence écologique, c'est à la fois symbolique et c'est à la fois fort.
Voilà, monsieur le ministre.
Donc on sait que c'est une déclaration.
On sait que c'est une déclaration. Autrement dit, des mots qui n'ont pas force de loi. Mais une déclaration franche, un symbole fort. Cette fois, promis, c'est du sérieux. Il vaut mieux, car cette situation d'urgence, d'autres l'ont déjà déclarée il y a longtemps.
Depuis 25 ans, la communauté scientifique nous envoie des messages d'alerte.
C'était il y a 5 ans. Emmanuel Macron prononçait ce discours au lendemain d'une tribune publiée par la communauté scientifique dans Le Monde, avec ce titre « Il sera bientôt trop tard ». Depuis, ce cri d'alarme est devenu le leitmotiv de toute conscience écologique. On en a même fait des comptines. On aura reconnu ici l'artiste Angèle. D'une mélodie à l'autre, c'est toujours la même chanson, difficilement audible et peu caressante aux oreilles. La fin est proche, il y a urgence. Et cette urgence doit nous alerter, nous avertir, nous secouer, voire même nous faire peur. C'est bien ce sursaut de panique qu'entend provoquer Greta Thunberg lorsqu'elle s'exprime sans embâge à la tribune de Davos.
Les adultes ne cessent de dire qu'ils doivent donner de l'espoir aux jeunes générations. Mais je ne veux pas de votre espoir. Je ne veux pas que vous soyez remplis d'espoir. Je veux que vous paniquiez.
Greta Thunberg applique ici l'heuristique de la peur, une méthode de sensibilisation qui consiste à imaginer un mal futur afin de le refuser à l'avenir. Hans Jonas, le premier, l'avait théorisé en 1979 dans « Le principe responsabilité ». Mais la peur risque aussi de susciter en même temps le découragement et son corollaire, l'abandon. Quand on panique, on perd ses moyens, on n'agit plus. Il faut donc aussi rassurer, convaincre que la menace est seulement à l'horizon. Et c'est sans doute pourquoi les députés qui avaient décidé d'inscrire l'urgence écologique et climatique dans la loi avaient également tenu à prendre quelques précautions oratoires.
Si on privilégie la notion d'urgence climatique à celle de crise climatique dans cette rédaction...
Gérer ce sujet par l'urgence, non pas forcément par la crise. La crise viendra si on ne prend pas en compte l'urgence. C'est pour ça que je vous propose l'urgence écologique et l'urgence climatique.
Sous-amendement, c'est l'histoire qui supprime la crise.
Supprimer cette crise qu'on ne saurait voir. Car en situation d'urgence, on peut éviter la catastrophe en agissant sur ses causes. Tout reste jouable, on plastronne. En situation de crise, il faut prendre acte de l'échec et assumer ses conséquences. On s'incline. Dès lors, on comprend aisément que, politiquement, l'instant d'alerte soit plus profitable que l'heure du bilan de faillite. Il faut donc répéter cet instant indéfiniment. Car en politique, le tocsin vaut toujours mieux que les trompettes.
Il est encore temps.
Il est encore temps, comme veut s'en convaincre ce collectif de youtubeurs qui lançait leur mouvement du même nom à l'été 2019. Il doit toujours être encore temps. C'est peut-être ce credo qu'assène le terme d'urgence. Et voilà l'urgence permanente qui est une attitude et non une échéance. Et pour cause, il n'est pas certain qu'on ait encore le sens de l'échéance. C'est ce que se demandait déjà Jean Baudrillard il y a plus de 20 ans.
Est-ce que nous avons encore des échéances réelles, quoi ? Ou est-ce qu'on est dans un compte à rebours qui n'est pas la fin? Le compte à rebours, c'est simplement l'exténuation de quelque chose. On arrive à épuisement d'un processus, mais il ne prend pas fin pour autant, il devient interminable. Alors ça, c'est un paradoxe. Ou nous n'atteindrons jamais la fin, nous n'y arriverons jamais, ou alors ça veut dire que nous sommes déjà au-delà.
Ce bientôt, bientôt, toujours recommencer fabule alors un jamais et semble trahir un déjà. Mais le premier n'est pas crédible et le second est insupportable. Au pied du mur, on temporise donc, on ratiocine, et l'on continue d'invoquer l'urgence pour conjurer la crise. On espère en faire cet horizon qui s'éloigne à mesure qu'on s'en approche, une imminence qui n'advient pas, toujours plus près, jamais atteinte. Et nous voilà, comme la flèche de Zénon, immobiles à grands pas. Alors on se murmure cette formule d'exorcisme bien fragile tout au long de notre chute, comme cette mauvaise blague qu'on se raconte dans La Haine, le film de Kassovitz.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
Merci à Tsolak pour sa chronique. On fait une... Alors, comme dit le calendrier de la personne, est-ce qu'on doit faire une pause musicale? Est-ce qu'on doit... On fait donc une pause musicale, donc, avec Stay High, c'est bien cela, de Yanis Odua, pour son nouvel album que nous recevons, qui est déjà en studio et que j'interrogerai juste après, et peut-être un live, c'est en débat.
Stay high.
C'était Stay High de Yannis Audua que nous recevons tout de suite dans le Zoom. Et donc, par extension, c'est l'heure du Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Bonjour, bonjour Yannis, vous nous faites le plaisir d'être dans notre Zoom ce soir. Vous êtes un artiste fondamental du reggae. Vous sortez votre nouvel album Stay High, du même nom que votre premier titre. Alors, ça fait combien de temps que cet album est en préparation et que vous préparez ce titre ?
Ben, bonjour déjà à vous tous, Radio Campus. Ça fait 2 ans actuellement que cet album est en préparation. En fait, il a été presque finalisé juste avant le premier confinement. Et comme nous sommes de la branche reggae, on sait comment ça se passe au niveau de la promotion, donc on attendait que les concerts redémarrent pour pouvoir le sortir.
Et alors, j'ai vu dans votre parcours, vous avez commencé à chanter et peut-être la musique à l'âge de 10 ans. Et vous avez été inspiré par votre frère, c'est ça ? Si
mon cousin.
Votre cousin, j'étais pas loin.
Pas loin.
Pas loin. Et c'est eux qui vous ont donné envie, ou alors est-ce que ça a été une porte ouverte et après vous avez découvert par vous-même ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du jeune enfant pour qu'on se lance dans une carrière dans le chant ?
C'est une histoire assez particulière parce que j'ai jamais eu envie ou quoi que ce soit de faire comme lui. C'est lui qui chantait. Et j'aimais juste le voir sur scène, tout simplement, et écouter les morceaux qu'il chantait, parce que je trouvais que les thèmes qu'il abordait étaient très pertinents, ça me parlait en tout cas. Et c'est un jour, à la fin d'une prestation à lui, où j'étais allé le féliciter de sa prestation, qu'il m'a dit « Ah ben t'es là !» il m'a tendu le micro.
Ah oui ?
Voilà, donc j'ai carrément presque pas eu le choix. Et depuis, en fait, c'est la demande après, à chaque fois, qui a fait que je me suis retrouvé là-dedans complètement. Quoi.
Alors, j'ai écouté votre nouveau son et c'est très particulier parce que c'est un mélange de reggae, c'est un peu d'électro, c'est un peu de rap. Comment est-ce que vous définissez au juste ? Parce que c'est à la jonction de beaucoup de choses.
On appelle ça du Future Roots.
Ok.
Du Future Roots, c'est le concept qu'on a adopté quand on a commencé à concevoir cet album.
Ouais.
On s'est dit qu'on gardait la base, qui est le reggae, la couleur roots, mais tout en incrustant des éléments d'autres univers musicaux, quoi, tout simplement. Donc, du rock aussi, que ça peut être électro, ça peut être la musique latine aussi. Donc, ce sont toutes les musiques que j'écoute depuis tout petit.
Ce sont vos sources d'inspiration,
mes sources d'inspiration, lesquelles, ma culture musicale aussi, que j'ai voulu partager sur cet album.
Et de quoi vous avez voulu parler dans le texte des albums ? Est-ce que vous avez plus cherché, c'est pas une critique, mais le son ou la parole ? Ou alors est-ce que vous avez essayé de parler un peu de vous peut-être, ou de choses qui vous tiennent à cœur ?
Ben un peu des trois. C'est-à-dire que le son était très important. Ce que je vis au quotidien aussi, c'est important. Et je me suis un peu livré aussi. Je me suis dit, bon, ça peut intéresser quelqu'un.
Oui, ça intéresse toujours. On a tous un côté voyeuriste.
Ah, voilà. je me suis un peu révélé tout en parlant de choses concrètes que nous vivons au quotidien. Et la musique aussi a été très importante pour moi.
Et beaucoup de duos dans cet album. Alors, généralement, il y a beaucoup d'artistes qui font des duos pour le public, plus que pour eux. Là, pour le coup, vous avez fait un duo pour vous, pour votre public.
Ben là, c'était plus pour moi, là, pour ce coup. Parce que ce sont des artistes que j'apprécie humainement parlant déjà, que j'apprécie ensuite artistiquement beaucoup. Et c'était aussi pour moi l'opportunité de...
Il y a qui déjà comme artiste qu'on les recite un petit peu ?
On a Danakil, on a l'équipe de Danakil, on a les Dubbing aussi, on a Flavia Coelho, on a Kiki Lion. C'est un jeune artiste qui est très talentueux, que ça me tenait à cœur de partager un morceau avec lui. Et on a aussi Kalash qui est un ami et un artiste de chez moi.
Et donc, vous allez être en concert, comme je le disais en aparté juste avant, le 9 juin, c'est ça ?
Le 9 juin au Cabaret Sauvage.
Au Cabaret Sauvage, très bien. Et votre album, il est déjà sorti ?
Il sort ce vendredi 13 mai.
Ce vendredi 13 mai. Peut-être qu'on aura la chance de voir ces duos. Et pour l'heure, donc après ces négociations et ce débat, comme on disait juste avant en régie, vous allez nous faire le plaisir de faire un live. C'est quoi le titre ? Vous pouvez un petit peu nous
pitcher ? C'est un petit classique, en fait. Quand je dis un petit classique, c'est le morceau par lequel la majorité du public m'a découvert ici, qui s'appelle La Caraïbe, le morceau. C'est de là que je viens. Ce sont mes origines.
Eh bien, en régie.
Rhythm Track.
Aha, yeah man,
Slacia, live on direct sur Radio Campus, you don't know. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Parce que chacun sait que Martinique, Guadeloupe ou Guyane, la situation empire, ça devient incontrôlable. Des générations entières ont souffert bien plus qu'au bagne. L'an 2000 n'est pas une plantation aux descendants d'esclaves. Il faut savoir que je ne juge personne et personne je ne blâme. Mais si beaucoup de jeunes s'obstinent à se tourner vers la cam, c'est parce que certaines personnes ont droit à ce qu'on ne les condamne. Ne me dis pas que tu ne sais pas qui rentre la drogue au kilogramme. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Hey, y'en a qui se battent pour l'indépendance. La majorité préfère être sous la tutelle de la France. Suivre les lois de son système pour eux est une assurance. Pour montrer qu'ils adhèrent à fond, manque leur préférence. En consommant tout ce qui vient de l'extérieur à outrance. Faut savoir que je ne fais pas partie de leur manigance. Coûte que coûte et quoi qu'ils fassent, ils ne changeront pas ce que je pense. Depuis mon enfance, j'ai profond l'Afrique une attirance. Hey, la Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Hey, tout le monde reconnaît ça yo fait. Yo reconnaît ça yo dit d'autres qu'attendent toujours que yo fait. Pour profiter de la vie qui ça d'autres comprend yo qu'il fait. De plus que ça qui n'est j'en dit, pas tant de personnels. Faudrait nous travailler pour lui même si nous qu'à songer. Qui mon grand-papa nous souffre pour s'attraper. Ti ben liberté. J'ai eu tes qu'est raché. Tu vas nous vivre sans un morceau, t'es quitte à nous. Que yo go men pour tchembe, tout manye nous l'a pour faire. Tout manye nous l'a pour dire. Si ni des bagailles nous kawè, c'est à nous d'y réagir. Nous tout attend en la tchè, à sauce à nous fini dit. Faut que ça va pas qu'en fait nous, pas nous de bodè, ça nous gade. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. C'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmenés là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. Hey. Agadi Soudoua live on direct sur Radio Campus Paris, you don't know. Bless and blaze, enough respect, la matinale.
Ça va.
Good. Merci, c'était donc La Caraïbe, un texte et un album percutant à la croisée des styles, avec des textes et un flow très impressionnant, je peux le dire moi qui suis à côté. Bah pour l'heure, il me semble que ça va être l'heure de la fin de notre matinale. C'était un plaisir de vous entendre, Yannis Audua.
Plaisir partagé.
Merci à Hugo, merci à nos deux juristes de ce soir, Élise et Lola. Pour l'heure, l'émission, le reste de Radio Campus Paris va continuer avec, je ne sais plus trop, la grille des programmes. J'essaye de lire sur les lèvres, je n'y arrive pas. Bon, c'est une très bonne émission, restez à l'écoute, je vous encourage. À très vite, très bonne soirée.